je suis célibataire. Est-ce que je dois me marier à tout prix ou rester célibataire? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je suis marié. Est-ce que je dois renoncer à mes relations conjugales parce que je suis chrétien et marié? Qu'est-ce que je dois faire? Quant à moi, je suis veuf. J'ai perdu mon épouse. Est-ce que je peux me remarier? Et si oui, avec qui? Avec quelle personne? Une personne chrétienne ou une personne non chrétienne? Qu'est-ce que je dois faire? Enfin, moi, je suis marié, mais avec une personne non chrétienne. Les circonstances de la vie ont fait que je suis devenu chrétien après mon mariage. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me séparer de cette personne? Alors voilà, vous êtes bien conscient que je ne suis pas dans ces quatre situations à la fois. Voilà un petit échantillon des questions que les chrétiens de Corinthe ont posées à l'apôtre Paul dans une lettre qu'ils lui ont adressée et que l'on pourrait résumer ainsi. Quelles sont les implications de la conversion dans la vie conjugale? La mort, la résurrection et le retour de Jésus. Qu'est-ce que ça change dans ma vie, très concrètement? Qu'est-ce que ça change dans mon mariage? Qu'est-ce que ça change dans mon célibat? Vous avez peut-être entendu dire que les Corinthiens ont une mauvaise réputation. En fait, l'un de leurs problèmes, je ne dis pas que c'est leur problème principal, l'un de leurs problèmes principaux, pardon, mais l'un de leurs problèmes, c'est qu'ils ont eu une mauvaise conception du corps. Une conception notamment influencée par la pensée grecque qui valorise l'âme au détriment de la matière, qui valorise l'esprit au détriment du corps. Du coup, certains aspirent à une relation purement spirituelle avec Dieu, dans laquelle le corps n'a plus aucune importance. On est sauvé en esprit seulement, disent-ils. On est un petit peu comme des anges dans le ciel. On n'a plus besoin de se marier. L'abstinence et le célibat font de nous des chrétiens TTS. Vous savez ce que ça veut dire, TTS? Très, très spirituel. Très, très spirituel. D'autres, tout au contraire, estiment qu'ils sont libres de faire n'importe quoi avec leur corps et notamment de fréquenter des prostituées. C'est ce dont il est question au chapitre 6, au verset 15 de cette première lettre aux Corinthiens. C'est grave. C'est très grave. Bref, il y a un bins. Il y a un problème, d'accord? Et dans cette première épître, dans cette première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul va essayer de corriger ce problème. Il va essayer de rectifier le tir en donnant quatre éléments de réponse fondamentaux pour comprendre le passage que nous allons lire ce matin. Donc je vous propose de voir très brièvement quatre éléments de réponse globaux que Paul donne aux Corinthiens dans sa première lettre. Le premier élément de réponse fondamental qu'il leur donne, c'est que votre corps a été racheté à grand prix en tant que chrétien, au prix de la mort de Jésus sur la croix. Jésus est mort, il est ressuscité pour vous sauver corps et âme. Votre corps a de la valeur. C'est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Chapitre 6, verset 19. Votre corps participe à la rédemption. Ne faites donc pas un usage irresponsable de ce corps. Ne faites donc pas n'importe quoi avec ce corps qui a été racheté à si grand prix au prix de la mort de Jésus sur la croix. C'est le premier élément de réponse fondamental que Paul donne dans sa première épître. Le deuxième élément de réponse, tout aussi important, c'est celui-ci. Écoutez bien. Le mariage, comme le célibat, est une bonne chose. Le mariage, comme le célibat, est une bonne chose. L'un n'est pas supérieur à l'autre. Dans les deux cas, il s'agit d'un don de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 7. Le mariage, comme le célibat, est une bonne chose. D'accord? Troisième élément de réponse très pratique. Le mariage est la solution à l'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2, l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire la sexualité hors du cadre du mariage. Et c'est précisément ce qui guettait certains Corinthiens qui avaient une mauvaise conception du corps. Quatrième et dernier élément de réponse qu'il faut vraiment prendre en compte avant de comprendre le passage que nous allons lire, c'est que le célibat n'a pas que des inconvénients. Le célibat n'a pas que des inconvénients, il a aussi des avantages. Il a aussi beaucoup d'avantages et c'est précisément cela que nous allons voir ensemble ce matin. Alors dans les versets que nous allons lire pour resituer le passage dans son contexte direct, Paul, à mon sens, s'adresse à des chrétiens en général, d'accord ? Mais plus particulièrement à des chrétiens célibataires qui se posent des questions sur le mariage, qui se demandent ce qu'ils doivent faire. Et voilà ce qu'il leur répond. Je vous invite à lire dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 7, des versets 25 à 35. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 25 à 35. Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie, et je voudrais vous les épargner. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, que ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et que ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde, dans sa forme actuelle, passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur. Sans tiraillement, prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour le don précieux de ta parole. Cette parole n'est pas une parole comme les autres, c'est la parole de Dieu. Tu nous révèles ta pensée, et parfois, cette parole contient des passages qui sont difficiles. Des passages qui sont difficiles à comprendre. Peut-être que ce passage fait partie des passages auxquels Pierre pensait quand il disait que certaines lettres de Paul comportaient des passages difficiles. Aide-nous, s'il te plaît, par ton Saint-Esprit, non seulement à comprendre ce que tu veux nous dire, mais bien plus encore à le mettre en pratique pour honorer ton nom, pour célébrer ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Aux chrétiens en général, mais plus particulièrement aux célibataires qui se posent des questions, je pense que Paul, dans ce passage, dit trois choses assez simples. Et je vous invite à suivre le plan de ce message au dos de vos bulletins que Alexandre a préparé pour nous. Trois points. Premièrement, qu'est-ce que Paul est en train de recommander aux Corinthiens des chapitres 25 à 28 ? Restez comme vous êtes. D'où ce premier point que vous avez au dos de votre bulletin. Restez comme vous êtes. C'est à la fin du chapitre 20, du verset 26. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Autrement dit, vous êtes marié. Restez marié. Vous êtes célibataire. Restez célibataire. Il ne s'agit pas d'un ordre. Paul n'a reçu aucune directive précise de la part du Seigneur. Mais regardez le verset 25 avec moi. Il leur conseille, en fait, de rester comme ils sont, parce qu'il a reçu de la part du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Je donne un avis en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Les Corinthiens sont libres absolument libres de se marier ou de rester célibataires, aucun problème. Mais Paul leur conseille de rester comme ils sont. Pourquoi ? Mais la réponse se trouve dans le passage, au verset 26, « À cause des temps actuels de détresse, à cause des temps difficiles de l'heure présente », selon certaines versions. Alors à quoi Paul fait-il allusion dans ce verset ? C'est pas facile à dire. Quatre possibilités pour comprendre à quoi Paul fait allusion. La première possibilité, c'est qu'il fait tout simplement allusion à la crise, un peu comme la crise que nous avons vécue en 2008 et de laquelle nous sommes en train de sortir, selon les spécialistes, en 2009, une crise économique et sociale qui a peut-être frappé les environs de Corinthe à l'époque. Première possibilité. Deuxième possibilité, des pressions politiques, peut-être. Troisième possibilité, des persécutions endurées par les chrétiens de Corinthe à l'époque. Quatrième possibilité, les difficultés inhérentes au monde dans lequel nous vivons, les difficultés de la vie, tout simplement. Mais en fait, quelle que soit la nature de ces détresses, Paul estime qu'il y a parfois des circonstances ponctuelles, des temps de crise, si vous voulez, où il est préférable, où il est parfois plus sage de ne pas se marier, mais de rester comme on est. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester toute sa vie célibataire, pas du tout, mais il y a parfois des circonstances ponctuelles, des temps difficiles, pendant lesquels il est préférable, il est plus sage de rester comme on est, tout simplement. Première chose que Paul dit donc aux Corinthiens, me semble-t-il, dans ce passage, restez comme vous êtes, restez comme on est, des versets 25 à 28. Deuxièmement, c'est le deuxième point que vous avez au dos de vos bulletins, vivre à la lumière du monde à venir. Vivre à la lumière du monde à venir. Ce sont les versets 29 à 31. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette section est encadrée de deux versets capitaux. Deux versets fondamentaux qui vont vraiment nous aider à comprendre la suite du passage qui peut être très très surprenante si on la lit hors de son contexte. D'accord ? Premier verset, le verset 29. Je vous propose de lire avec moi. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ? Le temps est court. Paul ne fait pas référence ici au temps en tant que durée. Il y a une différence, une distinction en grec entre le temps, le chronos, et le kairos. Et là, dans le texte original, il s'agit du kairos. D'accord ? Non pas le temps en tant que durée, le temps en temps. Oui, c'est ça. Non pas le temps en tant que durée, mais le temps en tant que moment fixé par Dieu dans l'histoire, le kairos. Et la question qui se pose, à quel moment est-ce que Paul fait référence ? Le temps est court. Le temps est limité, selon certaines versions. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le temps. À quel temps Paul fait-il allusion ? Eh bien, je crois que la réponse se trouve au verset 30, au verset 31, que je vous propose de lire avec moi. La fin du verset 31, « Car le monde, dans sa forme actuelle, passe. » Certaines versions ajoutent « va vers sa fin ». À quel moment de l'histoire Paul fait-il allusion ici ? Je pense que le moment auquel Paul fait allusion est le moment de la fin. Le moment que Dieu a fixé pour mettre un terme à la fin du monde présent, à la fin du monde qui aura lieu, selon le calendrier maya, en 2012. C'est ce qui ressort du calendrier maya et du film du même nom, ou plutôt devrais-je dire du même nombre, puisqu'un film est récemment sorti, je crois le 11 novembre dernier, un film intitulé 2012, qui se base sur certaines prédictions du calendrier maya. Mais en fait, quelle que soit l'année de la fin du monde, que nous ne savons pas, même Jésus dans son humanité ne le savait pas, quelle que soit l'année de la fin du monde, la Bible nous apprend qu'un jour, Jésus reviendra pour mettre un terme au monde présent, pour inaugurer un nouveau monde, une nouvelle création, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et vous voyez, et c'est là que c'est important à comprendre parce que c'est à la lumière de la proximité du monde à venir. C'est à la lumière de la proximité du monde à venir inauguré par Jésus que Paul analyse la vie présente et invite les Corinthiens à vivre. C'est clair ? C'est à la lumière de ce monde à venir qui sera inauguré par le retour de Jésus que Paul analyse toute la vie présente et invite les Corinthiens à vivre. Le mariage, par exemple. Verset 29. Que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. C'est surprenant. Que ceux qui sont mariés, que ceux qui ont une femme vivent comme s'ils n'en avaient pas. C'est très surprenant. Alors le mariage a ses avantages. J'en témoigne. Je suis marié depuis plus d'un an. Est-ce que ce sont les noces de papier ? Bref. Je témoigne que le mariage a beaucoup d'avantages et qu'il doit être honoré. Paul le préconise, on l'a dit, vous vous rappelez, au verset 2, pour prévenir toute immoralité sexuelle, c'est clair. Mais il semblerait que dans ces versets, Paul soit en train de relativiser, de modérer, de tempérer l'importance du mariage. Pourquoi ? Eh bien parce que le temps est court et que le monde passe. Le mariage est une institution qui ne durera pas éternellement dans le monde à venir, qui sera inauguré par le retour de Jésus. Les hommes et les femmes ne se marieront pas. C'est ce que dit Jésus en Matthieu 22, verset 30. D'où cette application pour nous aujourd'hui. Si nous sommes mariés, le mariage est vraiment d'une importance capitale en tant qu'institution de Dieu. Le mariage est vraiment quelque chose de très important, c'est son plan pour la plupart des hommes et des femmes. Honorons le mariage de manière responsable. Profitons des joies du mariage, parce que le mariage procure aussi beaucoup de joie. Mais ne vivons pas exclusivement pour notre mariage qui ne durera pas éternellement. Mais si nous ne sommes pas mariés, pour l'instant, ne vivons pas exclusivement dans le but unique de nous marier. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Il y a vraiment des choses beaucoup plus importantes. Il y a le retour de Jésus qui inaugurera un monde à venir. Une nouvelle création à la lumière de laquelle Paul nous invite à vivre en tant que chrétiens si nous avons placé notre confiance en la mort et en la résurrection de Christ. Voilà pour le mariage. Les peines de ce monde, regardez le verset 30. Que ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas. C'est très surprenant. C'est très surprenant. Les occasions de pleurer ne manquent pas dans la vie. J'étais à Paris il y a 2 semaines pour une réunion de travail. Et j'ai revu un collègue qui fait le même travail que moi à Paris, qui a perdu sa maman d'un cancer du foie. À Sydney, il a été obligé de rentrer de toute urgence en Australie avec ses 4 enfants, avec son épouse. Toute la famille était chrétienne. Il a pu la voir lors des derniers instants. On en a parlé, il avait les larmes aux yeux. Il avait les larmes aux yeux. J'avais de la peine. Les occasions de pleurer ne manquent pas dans cette vie. Le monde ressemble parfois à une vallée de larmes. On pleure la mort d'un ami, d'un parent, d'anonyme tué dans une catastrophe aérienne. Jésus lui-même a pleuré la mort de Lazare, un ami fidèle, dans le livre de Jean, chapitre 11. Paul n'est pas du tout en train de sous-estimer les souffrances, les peines de ce monde, mais je prends des gants pour dire ce que je vais dire. Il semblerait que dans ce passage, il soit en train de relativiser, de modérer, de tempérer tout ça. Pourquoi ? Parce que le temps est limité, le temps est court, parce que le monde passe, les souffrances que nous vivons dans ce monde, aussi terribles soient-elles. Et Paul n'est pas du tout en train de sous-estimer ça. Ces souffrances sont temporaires. Leur fin est proche. Un jour, Jésus reviendra pour essuyer les larmes de nos yeux. Ce jour-là, la mort ne sera plus. Dans le monde à venir, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. C'est notamment ce que dit le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, des versets 3 à 4. Par conséquent, et je sais que c'est pas facile à dire, ne nous laissons pas abattre par les peines de ce monde, aussi terribles soient-elles. Ne vivons pas comme si nous n'avions pas d'espérance, nous avons une grande espérance, l'espérance du monde à venir qui sera inauguré par le retour de Jésus. Le mariage, les peines de ce monde, les joies de ce monde, regardez la fin du verset 30, que ceux qui se réjouissent soient comme s'ils ne réjouissaient pas, encore une fois c'est très surprenant, et on pourrait mal comprendre ce verset hors contexte. Alors c'est vrai que la vie est faite de moments vraiment réjouissants, un bon repas d'église, comme celui qui nous attend la semaine prochaine, hein, les premiers dimanches de chaque mois. Un bon film à la télé, j'ai revu récemment la trilogie du Seigneur des Anneaux, fantastique. On a revu ça avec mon épouse Meg, qui n'avait jamais vu la fin, le retour du roi, le dernier chapitre de cette trilogie. Elle est en train de s'accrocher à moi, elle dit « qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se débarrasser de cet anneau ?» Bref, la vie est faite vraiment de bons moments, n'est-ce pas ? Un bon repas d'église, un bon film à la télé, un bon moment entre amis, une bonne semaine de vacances, j'en ai vraiment besoin, j'attends le 16 décembre avec impatience. Ça fait vraiment du bien, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas du tout de se priver de ces bons moments, mais au contraire, de vraiment de s'en réjouir et d'en profiter avec modération. Et modération, et reconnaissance, bien sûr. Mais encore une fois, il semblerait que Paul soit en train de relativiser, de modérer, de tempérer les joies de ce monde. Pourquoi ? Vous l'avez compris. Pourquoi ? Parce que le temps est court, parce que le temps est limité, parce que le monde passe et va vers sa fin. Ces joies ne sont que temporaires, par conséquent, ne nous laissons pas trop vite absorber par les joies de ce monde. Une joie beaucoup plus grande nous attend dans le monde à venir, la joie de la vie éternelle. Et cette vie éternelle a déjà commencé pour ceux qui croient en Jésus. Celui qui croit en moi, Jésus a la vie éternelle, au présent. Jean chapitre 3, verset 36. Vous voyez comment Paul, dans ce passage, est en train d'analyser la vie présente et d'inviter les Corinthiens à vivre à la lumière du monde à venir, dans le cadre du mariage, dans le cadre des peines de ce monde, dans le cadre des joies de ce monde et enfin, dans le cadre des possessions de ce monde. Regardez le verset 30 et 31. Que ceux qui achètent soient comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas. Très surprenant, encore une fois. Alors, je suis tout à fait conscient qu'il est difficile pour certaines personnes de subvenir à leurs besoins, mais d'un autre côté, il est parfaitement approprié de faire des études, de travailler pour gagner de l'argent, pour nourrir sa famille, pour acheter une maison, pour cotiser, pour sa retraite. Tout cela, ce sont des choses parfaitement appropriées, n'est-ce pas ? Dieu n'a strictement rien contre les biens matériels. Rien du tout. Mais Paul, encore une fois, vous connaissez la chanson, relativise les possessions de ce monde. Pourquoi ? Parce que le temps est court et limité. Parce que le monde passe et va vers sa fin. Ces biens matériels, aussi importants soient-ils, ne sont que temporaires. Le jour où Jésus reviendra, si nous sommes encore en vie, nous n'emporterons strictement rien avec nous. Strictement rien. Par conséquent, n'accordons pas trop de valeur à ce que nous possédons. Un jour, il faudra quitter le navire de ce monde qui est en train de couler. En laissant tout derrière nous, nos voitures, même si comme moi, vous n'en avez pas, nos CD, nos DVD, nos biens matériels, nos maisons, etc. Accordons plutôt de la valeur, de l'importance à ce qui nous attend dans le monde à venir, la joie ineffable, indicible d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est la promesse que Dieu fait à tous ceux qui placent leur confiance en sa mort et en sa résurrection. Voilà pour l'instant ce que dit Paul, d'accord, à des chrétiens en général, mais surtout à des chrétiens célibataires qui se posent des questions sur le célibat, qui se demandent ce qu'ils doivent faire. Premièrement, restez comme vous êtes les petits loups, d'accord, hein. Deuxièmement, vivez à la lumière du monde à venir. Et le troisième point, la dernière chose que Paul dit aux Corinthiens, des versets 32 à 35, préoccupez-vous des affaires du Seigneur. D'où ce troisième point qui se trouve au dos de votre bulletin. Préoccupez-vous des affaires du Seigneur. Je propose de relire ces quelques versets ensemble qui ne sont pas très faciles et qui m'ont donné pas mal de fil à retordre, qui m'ont valu quelques nuits blanches et quelques cheveux blancs, d'accord ? Versets 32 à 35. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Qu'est-ce que Paul est en train de dire dans ces versets? Premièrement, qu'est-ce que Paul n'est pas en train de dire? Je crois que pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire, on peut essayer de comprendre ce qu'il ne veut pas dire, d'accord? Donc qu'est-ce que Paul ne dit pas? Paul n'est pas du tout en train de dire qu'un couple marié ne peut pas se préoccuper des affaires du Seigneur. Pas du tout. Les affaires du Seigneur, que je rapproche d'ailleurs du passage que nous avons lu tout à l'heure, Matthieu chapitre 6, verset 33, un verset que vous connaissez peut-être, « Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seraient données en plus. » D'autres versions traduisent « Préoccupez-vous en priorité du royaume de Dieu et de sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » Jésus est en train d'instituer, de parler d'une certaine hiérarchie des valeurs. Il a des choses plus importantes que d'autres. Les choses du Seigneur, par exemple. Le fait de se préoccuper de l'avancement de son règne, de faire sa volonté, de la mettre en pratique, de se préoccuper de sa justice. Mais ce que Paul n'est pas en train de dire là, il n'est pas en train d'opposer d'un côté le mariage, d'accord, et de l'autre le service fidèle du Seigneur. Pas du tout. Vous pensez peut-être à des couples qui servent le Seigneur de manière très fidèle, et c'est peut-être votre cas d'ailleurs, et les deux choses ne sont pas du tout incompatibles. Voilà ce que Paul ne dit pas. Alors qu'est-ce que Paul est en train de dire? Je peux me tromper, mais il semblerait que ce que Paul est en train de dire dans ces versets, c'est que le mariage apporte inévitablement son lot de préoccupations mondaines, terrestres, matérielles. Le mariage procure beaucoup de bonheur, j'en témoigne, malgré ma petite année de mariage, c'est vrai. Mais le mariage prend aussi beaucoup de temps. Le mariage consomme beaucoup d'énergie, énergie physique, énergie émotionnel. On ne fait pas toujours tout ce qu'on veut, quand on est marié, surtout quand on a des enfants. Ce dont je vais faire l'expérience dans quelques jours, ou dans quelques semaines peut-être, qui sait. Mais on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut, quand on est marié. Le mariage implique des responsabilités, des obligations, parfois des contraintes, qui viennent s'ajouter aux préoccupations de la vie, aux difficultés de la vie, et qui entraîne un tiraillement qui est difficile à éviter. Un tiraillement, c'est-à-dire une sorte de conflit intérieur entre le désir de plaire à Dieu d'un côté et le désir de plaire à son mari ou à sa femme de l'autre. Cela ne veut pas du tout dire que ce désir soit une mauvaise chose. Ça ne veut pas dire que le désir de plaire à sa femme ou de plaire à son épouse est une mauvaise chose. Pas du tout. Au contraire, c'est tout à fait légitime et approprié. Ça fait partie de nos responsabilités devant Dieu. Dieu est vraiment honoré quand le mariage est honoré. Mais Paul semble dire dans ces versets que la nature et la réalité du mariage impliquent un tiraillement qui est difficilement évitable et qui peut nous distraire, nous détourner de notre priorité qui consiste, comme vous l'avez compris, à se préoccuper des affaires du Seigneur, à être pleinement attaché à lui, à le servir fidèlement. Du coup, le conseil que Paul pourrait donner aux Corinthiens dans ce passage pourrait être le suivant, j'ouvre des guillemets, Corinthiens, les petits loups. La vie est assez compliquée comme ça. Les temps actuels de détresse, au verset 26, quelle que soit leur nature, la proximité du monde à venir, qui sera inaugurée par Jésus,